ce stade de rappeler une règle importante. Ne doivent pas prendre part au vote ni même au débat des conseillers municipaux qui peuvent être intéressés à l'objet de la délibération du fait que ceux-ci ou leur famille seraient locataires de Bonne-la-Grande. De ce fait, je demande à ce que tous les conseillers fassent connaître leur lien personnel ou familial à l'objet de la délibération présente, dans la mesure où eux-mêmes ou leur famille venaient à être locataires de banque. Deux membres du conseil municipal paraissent dans ce cas, M. Artiganab et Mme Omnes. Y en a-t-il d'autres? Je leur demande donc de bien vouloir se retirer le temps du débat et du vote de cette délibération, et ceci afin d'assurer le respect de la règle de non-intéressement à l'objet de la délibération.
Pour ma part, moi je voulais le dire déjà, je ne prendrai part pour cette raison-là ni au débat ni au vote de la délibération 1-3, pas plus que de la délibération 1-4, donc je quitterai la salle et je rentrerai pour le vote de la lecture de la délibération 1-5.
C'est très bien.
Pour ma part, Madame le maire, je comptais faire exactement la même chose que Madame Omnes, c'est-à-dire étant non pas directement, mais indirectement intéressé par cette question des bancs de la grotte, je ne participerai pas au vote. Mais par contre, je compte bien participer au débat.
Donc ce sera noté dans le PV de la délibération, oui, et envoyé au contrôle de l'égalité que vous aimez tant, car je ne voudrais pas que votre présence et votre participation soient une raison d'entacher la délibération.
C'est donc que vous avez pendant quelques nuits pour faire plaisir à votre secrétaire général, mais je doute que vu l'issue de ce débat, Madame le maire, et surtout l'issue du vote étant majoritaire, ma position, en tout cas au niveau du débat lui-même, risque d'entacher la nature de la délibération.
Ensuite, votre présence dans le débat, d'ailleurs, Madame Ornès l'a très bien compris.
Oui, je sais, oui.
Donc c'est pour ça que le principe de non-participation est reconnu par la loi, et c'est pour ça que je vous le proposais. Mais dans l'acte, vous décidez de rester, mais ce sera inscrit dans le PV.
Absolument.
Monsieur Abadi.
Mais par contre, je ne participerai pas au vote, et ceci aussi, vous le notez.
Oui, mais ça, j'ai bien entendu.
Mais voilà.
Mais normalement, vous ne devez pas participer au débat. Donc.
Madame le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers amis lourdaises et lourdais, si je tiens à mettre de la solennité dans mes propos, c'est parce que je mesure la dimension historique de la décision que nous allons prendre ce soir. Oui, je dis bien historique, car je sais que les bancs de la grotte font partie du patrimoine de la
ville depuis
plus de 150 ans. Je ne vais pas refaire ici le cheminement de leur création dans les années 1670, ni les différents épisodes ou péripéties qui ont émaillé l'histoire de ces magasins. Mais nous avons vu actuellement l'un des actes les plus importants. Le 4 octobre 2018, nous avons pris une décision de principe, celle de vendre les bancs de la grotte, qui en un siècle et demi sont passés de rang de baraques, pour reprendre la terminologie d'époque, à celle de commerce d'objets de piété. Ce 1er mars 2019, dans le cadre de notre budget annuel, nous devons officialiser notre intention de vendre ces bancs. Il ne s'agit pas, comme certains ne manqueront pas de l'affirmer, ou sûrement dans cette enceinte même, de le reprocher de se séparer de notre trésor de guerre. Non, il s'agit de faire entrer aujourd'hui de plein pied notre vie dans le 21e siècle. Et c'est un honneur qui nous incombe. Oui, nous devons mettre, non pas des regrets ou de l'amertume, mais du réalisme et surtout de la fierté dans cette décision que nous allons assumer par un vote officiel. Ce n'est pas le choix de quelques personnes, c'est une décision collective, ce sera le choix de notre conseil municipal. Nous sommes et nous devons être au rendez-vous de l'histoire de Lourdes. En 2019, la ville n'a plus lieu d'être propriétaire, de gérer les gros commerciaux de ces fameux bancs de la grotte, dont le destin doit désormais s'inscrire dans un contexte essentiellement commercial de droit privé. Le commerce et la gestion de patrimoine ne sont pas des missions de service public. Il faut donc rendre au privé ce qui doit être au privé. De nombreuses villes, de nombreuses collectivités, voire l'État lui-même, se sont déjà libérées de ces liens inappropriés afin de se consacrer à des missions plus spécifiques d'intérêt public. Il faut arrêter le mélange des genres. En tout état de cause, la loi Pinel nous fait obligation de procéder à cette vente. Nous ne pourrons pas effectuer les travaux de rénovation et de réhabilitation de ces bancs de la grotte tels qu'ils sont définis par les recommandations légales qui sont imposées aux collectivités locales propriétaires de biens. Comme nous avons pu le constater sur les premiers diagnostics demandés à un cabinet d'experts, certains propriétaires de fonds n'ont pas satisfait à leurs obligations d'entretien de ces murs commerciaux. Parallèlement, ce qui est paradoxal, notre collectivité n'a plus les moyens de répondre à ses aspirations légitimes en matière d'investissement et de développement. Nous ne pouvons plus nous adosser à des stratégies financières pour financer nos projets tant que de nouvelles recettes pérennes ne soient créées et que nous retrouvions des capacités d'autofinancement positives, même si dans le même temps, des efforts déjà très importants pour réduire les charges négatives ont été consentis. Comme l'a dit Madame le maire, il est hors de question d'augmenter la charge fiscale des Lourdaises et des Lourdais. En 2014, nous nous sommes engagés pour défendre les intérêts des Lourdaises et des Lourdais, mais aussi pour améliorer leur sécurité et leur bien-être. C'était et cela reste notre postulat de base. Notre patrimoine communal commercial, s'il a permis de favoriser à ses débuts une activité économique pour les plus défavorisés, ne doit plus aujourd'hui permettre de faire fructifier des intérêts privés au détriment de l'intérêt public si l'on tient compte de la modicité des loyers payés. Au-delà de l'enjeu économique de notre décision, de son aspect historique, notre choix s'explique par une plus forte volonté d'implication vers un esprit de solidarité si cher à nos concitoyens. La vente de ces bancs de la grotte, dont vous connaissez les modalités et sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, va nous permettre de compenser le coût des travaux nécessaires à la mise en sécurité et à la mise en conformité des ouvrages, bâtiments et à l'amélioration des conditions de vie de nos habitants. La poursuite des gros chantiers, l'église paroissiale, l'immeuble à cour, les ponts, Arouza, Julos, Marancel, Saint-Michel, Sarsan, l'entretien des bâtiments communaux dont nous étions fixés comme objectif en début de mandat, la mise hors d'eau, sans parler de mise en conformité, la réfection des chaussées et des trottoirs, le maintien de la propreté des rues qui nécessite un ajustement fort des moyens, particulièrement le renouvellement du parc automobile. La liste est grandement ouverte. Nous devons de respecter le contrat moral que nous avons avec les habitants qui attendent ce que nous avons projeté. Pas de projet pharaonique à l'horizon ou de dépenses démesurées. Nous sommes dans la gestion du quotidien, et ce, je le répète, sans augmentation des impôts. La vente des bancs de la grotte va fortement appuyer la valorisation de notre patrimoine communal. C'est une véritable opportunité qui n'a aucun critère politicien. Notre objectif a un caractère humain, car ces nouvelles ressources financières profiteront à l'intérêt de tous et aux valeurs qui sont les nôtres. Les socioprofessionnels hôteliers ont déjà participé à cet effort collectif à travers l'instauration de la taxe séjour au réel. D'aucuns se rendent compte de tous les efforts que nous consentons pour dynamiser l'économie touristique. Cette taxe séjour a permis la création et le développement du carrefour des pèlerinages en participant au financement avec le syndicat mixte pyrénéen, le département et la grande aglo Tableau de Pyrénées, à la création des lignes aériennes nouvelles, après Rome, Milan, Londres, Bruxelles, l'année passée Cracovie et Malte, cette année Dublin et Lisbonne, qui vont nous ouvrir les marchés de l'Amérique latine, Lisbonne principalement. Ces liaisons maintenues élargiront le flux touristique vers la cité mariale, que nous essayons d'améliorer avec de nouveaux aménagements urbains. Cet apport touristique profite déjà aux socioprofessionnels des ventes de la grotte. Je sais qu'à Lourdes, plus qu'ailleurs, il est difficile de faire évoluer les choses. Ce n'est pas un risque que de se propulser vers le futur. Nous devons vivre dans notre temps et nous tourner vers l'avenir, comme a su le faire le domaine de la grotte ces trois dernières décennies, quand il a dû s'adapter aux évolutions modernes et aux contraintes de notre société. Dans quelques mois, nous nous féliciterons de cette nouvelle étape. Les générations futures, et pourquoi pas l'histoire, retiendra le bien fondé de notre choix. Merci.
Merci, M. Abadi. Donc, je vais lire la délibération. Protocole de vente des 66 bancs de la grotte, cahier des charges de la session. La ville de Lourdes est propriétaire de 66 locaux accueillant des commerces au titre de 66 baux commerciaux, conventionnellement appelés bancs de la grotte, qui reposent tous sur un cahier des charges établi, par délibération des 23 et 25 octobre et 10 novembre 1911, modifié par délibération des 22 mai 1948 et 27 octobre 1956, donc qui repose sur un cahier des charges et des loyers modiques en contrepartie de la prise en charge de gros travaux de réparation par les 10 locataires, menuiserie, couverture, murs, escaliers, etc. La commune de Lourdes a fait réaliser un diagnostic technique sur l'ensemble des bancs de la grotte afin de vérifier si ces travaux ont bien été réalisés par les locataires et si par voie de conséquence, les locataires ont respecté leurs obligations. Ce premier diagnostic a démontré que de nombreux locaux ne sont pas en état. Or, la loi 2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d'application 1417 du 3 novembre 2014 interdit désormais tous les baux conclus ou renouvelés à compter du 3 novembre 2014 de faire supporter au locataire. Premièrement, les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil, ainsi que le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux. Deuxièmement, les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation, le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'il relève des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent. Ces nouvelles réglementations ont ainsi remis en cause l'équilibre économique dans lequel s'inscrivaient les dispositions contractuelles des bandes de la côte jusqu'à présent. En effet, pour tous les baux qui seraient conclus ou renouvelés à compter du 3 novembre 2014, il incombe désormais à la commune de réaliser et supporter financièrement tous les travaux de grosses œuvres et plus généralement ceux visés par l'article 606 du Code civil. Par ailleurs, le motif qui pouvait présider en 1911 de viser à l'harmonisation de l'aspect et de l'alignement des bâtiments des bancs, et qui pouvait expliquer la volonté de conserver l'unicité de la propriété et son caractère public, ce motif est désormais garanti dans son effectivité par les dispositions actuelles d'ordre urbanistique. L'intérêt de conserver ces biens dans le domaine public pour ce motif n'est désormais plus apparent. De même, les bancs ont une destination de local commercial et n'obéissent dès lors pas strictement à l'intérêt général. Aussi, la commune ne peut conserver un tel patrimoine que dans la mesure où il contribue favorablement à ses finances en lui apportant des recettes abondant son budget général. A l'inverse, les biens immobiliers dont la gestion deviendrait déficitaire et qui n'auraient plus d'intérêt de service public n'ont pas vocation à rester au patrimoine de la commune. Les investissements nécessaires pour remettre en état les 10 locaux représentent une charge très lourde pour le budget de la commune et au vu de la forte contrainte financière qui pèse déjà sur la collectivité, la seule possibilité de financement serait d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité. La commune estime dès lors que d'une part, elle n'a plus les moyens d'assumer sa charge de propriétaire de biens immobiliers ayant par ailleurs une destination uniquement commerciale et n'obéissant pas strictement à l'intérêt général, et que d'autre part, elle ne souhaite pas, pour y faire face, avoir recours à une augmentation de la pression fiscale sur l'ensemble des habitants de Lourdes, qui devraient supporter cette charge nouvelle sans que les bénéfices de l'activité commerciale ne se répercutent pour autant favorablement sur les recettes de la ville, au vu de loyers fixés à un niveau très bas. La commune décide dès lors de mettre en vente les bancs de la grotte selon un cahier des charges de la cession ci-après annexée et une attribution préférentielle au profit des locataires actuels en application de l'article L145-46-1 du Code de commerce. Elle prévoit dans ce cahier des charges un certain nombre de garanties visant d'une part à assurer non seulement la préférence d'achat pour les locataires actuels, mais aussi d'éviter l'émergence d'un nouveau propriétaire unique ou prépondérant en ne prévoyant la possibilité d'achat que de bancs maximum, et d'autre part, à limiter un éventuel effet inflationniste sur les prix de ces biens en écartant une logique d'enchère, tout en préservant l'émergence d'un juste prix dans l'intérêt de la commune et du caractère ouvert à la vente, et ceci en prévoyant la limitation à une seule et unique contre-offre d'un éventuel acheteur qui ne serait pas le locataire. Projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2241-1, in fine, modifié par l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006, article 3.8.3.7. Vu la loi du 8 février 1995, modifié par l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006, article 3.16. Vu l'article L. 3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu les dispositions du titre 6 du Code civil relatif à la vente, vu les dispositions de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 et de son décret d'application 2014-1317 du 3 novembre 2014, considérant les bancs de la grotte 6 à Lourdes, 65 100, propriété de la commune de Lourdes, considérant que les communes de plus de 2000 habitants, notamment, sont tenues de solliciter l'avis de l'autorité compétente de l'État avant toute session, considérant que les avis de l'autorité compétente de l'État des 8, 12, 15, 25, 29 et 30 octobre 2018 et des 3, 4, 7, 8 et 9 janvier 2019, par lesquels elle estime la valeur vénale des bancs, numéro 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, annexé à la présente délibération, considérant l'exposé de la réglementation applicable en matière de cession d'immeubles ci-après reproduite, après avis de la première commission, les membres du conseil municipal adoptent le rapport présenté, décide la cession de la propriété immobilière de tous les bancs de la grotte 6, 1 à 31 place Monseigneur Laurence, 2 à 19 avenue Bernadette Soubirousse, 76 à 115 rue de la Grotte, 3 à 14 avenue Monseigneur Chauffeur à Lourdes, 65 100, dans le respect des règles du droit civil régissant la cession immobilière, et dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur, autorise Madame le maire à prendre tous les actes nécessaires à l'exercice de la présente délibération, le projet de cahier des charges de la cession contenant ses clauses et conditions essentielles est annexé à la présente délibération, étant précisé que le prix de vente de chaque banc devra être égal à minima à l'évaluation des domaines. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Je vous propose de lire le cahier des charges de cession des bancs de la grotte. Préambule. La ville de Lourdes est propriétaire de 66 locaux accueillant des commerçants titulaires de baux commerciaux et conventionnellement appelés bancs de la grotte. Dans un souci de valorisation des actifs de la ville et compte tenu des dépenses importantes nécessitées par les nouvelles réglementations en vigueur, la ville de Lourdes a décidé de mettre les bancs de la grotte en vente avec attribution préférentielle aux preneurs actuels titulaires d'un droit de préférence en vertu de l'article L. 145-46-1 du Code du commerce. Nom du vendeur, ville de Lourdes, dossier suivi par la Direction générale des services, DP 709-65-100 Lourdes, site internet www.lourdes.fr. Nom des notaires du vendeur, office notarial, S-E-L-A-R-L, Verdoux, Fond, Bassavert, Marty, adresse principale 10 avenue Maréchal Juin, DP 123, 65104, Lourdes-Cédex. Et l'office notarial Marc Cazel et Françoise Darré, adresse principale 2 rue Anselme-Lacadé, DP 107, 65100, Lourdes. Si après dénommé dans le présent acte des notaires de la ville. Objet de la consultation. Appel à candidature. La consultation a pour objet de recueillir les candidatures dans le cadre de la mise en vente à l'amiable des 66 bancs de la grotte situés respectivement du 1 au 31 place Monseigneur Laurence, du 2 au 19 avenue Bernadette Soubirousse, du 76 au 115 rue de la Grotte, du 3 à 14, avenue Monseigneur Chauffard, à Lourdes 65 100, après publicité et mise en concurrence. Cette procédure est suivie par la Direction Générale des Services de la Ville de Lourdes. Toute personne intéressée pourra déposer une offre d'achat dans les conditions prévues ci-après, dans le respect des formes et délais précisés par le présent cahier des charges de la cession. En cas d'accord, l'acte authentique constatant la vente de l'immeuble sera rédigé aux frais de l'acquéreur par les notaires de la ville. Premièrement, mode de la consultation. La base de cette consultation est constituée par le présent cahier des charges et l'ensemble des informations juridiques, administratives et techniques relatives au bien. La consultation est organisée par la ville de Lourdes, dossier suivi par la Direction générale des services, BP 709 65 100. L'affaire est suivie par Mme Nathalie Dattemont-Ticone avec le numéro de téléphone et l'adresse internet. Ce service tient à la disposition des candidats le présent cahier des charges des conditions essentielles de la vente, le dossier technique et le dossier urbanisme. Le cahier des charges de la vente est consultable sur le site www.lourdes.fr. Le dossier technique et le dossier urbanisme sont à demander aux services municipaux. Deuxièmement, désignation des immeubles. L'ensemble des lots est plus amplement désigné selon les 66 fiches de désignation annexées au présent cahier des charges de la cession. Troisièmement, la situation locative. Les immeubles constituant les bancs de la grotte sont actuellement occupés par 66 locataires, chacun titulaire d'un bail commercial dont la situation juridique est détaillée ci-après par numéro de banque dans le tableau annexé. Urbanisme. L'ensemble des documents relatifs au dossier urbanisme sera fourni sur demande expresse formulée auprès des services de la mairie de Lourdes. La rédaction écrit PLUI. Je supprime et je vous demande de prendre note de la suppression de cette précision entre parenthèses PLUI. Le PLUI n'étant pas encore déterminé par l'aglo, il sera fin décembre. Donc, pour l'instant, le dossier urbanique relève du poste de la ville de Lourdes. Dossier de diagnostic technique, autrement dit DDT. Cinquièmement, le DDT porte une appréciation sur la présence de matériaux ou produits. Il rassemble l'ensemble des états, constats et diagnostics obligatoires, notamment concernant la réglementation relative à l'amiante, l'exposition aux plantes, les risques naturels et technologiques, le diagnostic performance énergétique. L'ensemble de ces documents est inclus dans le dossier technique qui sera fourni sur demande express formulée auprès des services de la mairie de Lourdes. Cahier des charges, sixièmement. Le cahier des charges établi par délibération des 23 et 25 octobre et 10 novembre 1911, modifié par délibération des 22 mai 1948 et 27 octobre 1956, comprenant des clauses et conditions particulières applicables au beau en cours, sera fourni sur demande expresse formulée auprès des services de la mairie de Lourdes. Les dispositions de ce cahier des charges sont uniquement et strictement applicables au beau en cours. Il est ainsi expressément précisé que les dispositions de ce cahier des charges ne seront pas applicables au nouveau beau conclu après le 3 novembre 2014. Septièmement, conditions particulières. Condition suspensive. La vente est réalisée sous la condition suspensive suivante. Purge du droit de préférence des locataires actuels. Vente de chaque banque ne pourra être consenti que sous la condition que tout droit de préférence ait été préalablement purgé par la ville de Lourdes pour chaque locataire en titre concernant le banc faisant l'objet de l'acquisition. En effet, en application de l'article L145-46-1 du Code de commerce, la ville de Lourdes a décidé de proposer en priorité la propriété de chaque banque aux locataires respectifs du dit banc concerné. Aussi, concomitamment à la consultation ci-dessus décrite, ayant pour objet de recueillir les candidatures dans le cadre de la mise en vente à l'amiable des 66 bornes de la grotte, et afin de purger le droit de préférence des locataires de chaque borne, la ville de Lourdes leur proposera une offre de vente de leur local au prix des domaines, sous condition suspensive qu'aucune offre d'achat à un prix supérieur ne soit déposée dans le cadre de la consultation précitée par le présent document. Et dans le cadre de la dite consultation, une offre d'achat est déposée à un prix supérieur. Si, dans le cadre de la dite consultation, une offre d'achat est déposée à un prix supérieur à celui des domaines, les formalités de purge seront de nouveau accomplies à la diligence de la ville de Lourdes, qui mandatera à cet effet les notaires de la ville, lesquels seront ainsi chargés de transmettre la notification à la personne ou administration intéressée, et cette notification devra stipuler que la réponse du bénéficiaire du droit de préférence devra être adressée au dit notaire. La ville de Lourdes, par l'intermédiaire des notaires de la ville, sera ainsi tenue d'informer le locataire de chaque borne précédemment visée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaudra offre de vente au profit du locataire du banc. Ce dernier disposera alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire disposera, à compter de la date d'envoi de sa réponse au notaire du vendeur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Dans cette dernière hypothèse, il est expressément indiqué que si le locataire n'obtenait pas son crédit, l'offre de candidature privilégiée par la ville sera donc celle du candidat acquéreur qui avait répondu conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges de la vente et selon les critères définis à l'article 5.5 des présents et aurait ainsi été retenu si le locataire n'avait pas fait jouer son droit de préférence. En tout état de cause et de manière plus générale, si à l'expiration du délai de deux mois ou de quatre mois dans l'hypothèse du recours à un crédit, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente sera sans effet. L'offre d'achat par le titulaire du droit de préférence à des prix et des conditions différentes de ceux notifiés entraînera la non-réalisation de la condition suspensive au même titre que le non-exercice pur et simple du droit de préférence. 7.2. Clause de subrogation. Le candidat acquéreur sera expressément subrogé dans tous les droits et actions de la ville, et notamment ceux qui seraient directement ou indirectement liés aux groupes commerciaux concernés par la dite acquisition. Ce qui s'entend notamment de toute procédure judiciaire introduite par les locataires de la ville concernant l'exécution et ou la résiliation des groupes commerciaux, en ce notamment compris la fixation de toute indemnité d'éviction et ou d'occupation. Il est ainsi expressément stipulé que tous les litiges et les conséquences financières qui seraient susceptibles d'en découler seront intégralement supportés par l'acquéreur, que ceux-ci trouvent leur cause avant ou après la dite cession. 7.3. Interruption du processus de vente. La ville de Lourdes se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le processus de vente à tout moment sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 7.4. Date limite de signature de la promesse de vente et d'achat. La promesse de vente devra être régularisée au plus tard un mois après la notification par la ville au candidat retenu de l'acceptation de l'offre d'achat par lettre recommandée. Indication relative au prix. L'unité monétaire du contrat de vente est l'euro et le prix contenu dans l'offre sera exprimé net de tout droit ou taxe. Prix de base. Toute offre doit au minimum être égale au prix de base établi conformément à l'avis des domaines. En cas d'offre inférieure émise par un candidat, celle-ci sera considérée comme nulle et non avenue. Le candidat ainsi évincé ne pourra se prévaloir d'aucun préjudice à l'encontre de la liste de l'offre. Chapitre 4. Organisation de l'appel à candidature. Caution. Premièrement, caution. Les personnes qui désirent prendre part au présent appel à candidature doivent présenter une caution bancaire garantissant leur proposition de prix fixée à 10% du montant de l'offre et à constituer au plus tard au moment du dépôt de l'offre. Cette caution sera émise par un établissement compris dans la liste des organismes habilités à offrir leur garantie en France auprès des comptables publics. La caution s'engage solidairement avec le candidat à toutes les charges et conditions de la vente. L'acte de cautionnement devra être déposé auprès du receveur municipal de Lourdes contre récépissé. Le cautionnement des candidats écartés leur sera restitué par le receveur municipal de la ville de Lourdes au plus tôt 15 jours après avoir reçu par pli recommandé avec accusé de réception la lettre leur notifiant le refus d'acceptation de leur offre sur présentation de cette lettre et du récépissé du dépôt visé ci-avant. En revanche, si le candidat retenu par la ville ne se présentait pas à la signature de la promesse de vente, et ce, après la voie d'une mise en demeure restée sans effet, après un délai de 8 jours, la ville de Lourdes sera libérée de toute obligation envers le candidat et la caution susvisée sera définitivement acquise à la ville de Lourdes. Deuxièmement, contenu des offres. L'offre d'achat comprend les données suivantes. Données juridiques. Le candidat va présenter une offre ferme et définitive d'acquérir le bien à son profit dans sa totalité et sans possibilité de substitution, sauf au bénéfice d'une société civile immobilière dans laquelle il maîtriserait plus de 50% des parts. Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des charges de la cession. Le candidat doit par ailleurs présenter une offre garantissant l'exercice d'une activité qui ne soit pas contraire à l'ordre public et ou aux bonnes mœurs. Le candidat doit s'engager à signer l'acte de vente dans le respect du calendrier tel qu'il est précisé à l'article 7.4 du présent document. Le candidat peut présenter une offre d'acquisition pour deux bandes maximum. Là, il faudra rajouter ou contigu. Toute offre d'acquisition concernant plus de deux bancs sera ainsi considérée comme nulle et non avenue. Le candidat ainsi évincé ne pourra se prévaloir d'aucun préjudice à l'encontre de la ville de Lourdes. Le candidat doit par ailleurs préciser s'il s'agit d'une société ou d'une personne morale, sa dénomination sociale, son capital social, son siège social, ses coordonnées complètes. Le nom de son dirigeant, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée à prendre l'engagement d'acquérir. Sa surface financière, chiffre d'affaires global pour chacune des trois dernières années. Sa déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos. L'extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés au répertoire des métiers ou équivalent. Le ou les banques concernées par l'offre d'acquisition étant rappelées que toute offre d'achat mentionnant plus de deux banques serait considérée comme nulle et non avenue. S'il s'agit d'une personne physique, il doit procéder et doit préciser ses éléments d'état civil, sa situation matrimoniale, ses coordonnées complètes, le ou les banques concernées par l'offre d'acquisition étant rappelé que toute offre d'achat mentionnant plus de deux bancs sera considérée comme nulle et non avenue. Si le candidat, qu'il s'agisse d'une société, d'une personne morale ou d'une personne physique, entend financer toute ou partie de son acquisition par un prêt, il devra alors préciser les références de l'établissement prêteur, le montant dû ou des prêts souscrits, la durée due ou des prêts, le taux d'intérêt maximum qui ne pourra être stipulé inférieurement à 10%. Dans cette hypothèse, le candidat est invité à produire tout document ou attestation permettant d'apprécier sa capacité financière à réaliser l'acquisition et à obtenir le prêt envisagé, par exemple un avis favorable de son établissement bancaire. Données financières. Alors, il faut une offre de prix, enfin le justificatif du dépôt de cautionnement auprès du receveur municipal de la ville de Lourdes. Organisation des visites. Les candidats pourront sur rendez-vous accéder à la visite de l'immeuble en s'adressant à la ville de Lourdes, Direction générale des services, BP 709, 65100 Lourdes, le site internet de la ville de Lourdes, l'affaire suivie par Nathalie Gâteau-Monticone, son numéro de téléphone et son mail. Les visites seront organisées sur rendez-vous exclusivement les jours ouvrés et heures ouvrables entre 9h et 11h et 14h et 16h. La ville se réserve le droit de proroger les dates de fin de visite et de remise des offres. Cette information sera diffusée le cas échéant par une insertion dans la presse locale sur le site internet de la ville et à toute autre personne qui aura fait connaître son intérêt pour la vente et laisser ses coordonnées à cet effet. Les candidats sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou à faire procéder par leur conseil ou aux vérifications et audits d'ordre technique, administratif, juridique qu'ils jugeraient nécessaires pour faire une offre d'acquisition. En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu'en soumettant une offre, ils ont obtenu des informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de garantie de leur part, et sous les seules conditions qui seront arrêtées dans les conditions importantes de transfert de propriété des immeubles. Lieu où les documents relatifs à l'immeuble peuvent être obtenus. Toute information complémentaire se rapportant à l'immeuble ou aux modalités de présentation des candidatures peut être mandatée ou retirée à la ville de Lourdes, Direction générale des services. Toujours la même adresse. Présentation des candidatures. La lettre de candidature contenant l'offre de contracter devra être rédigée en français et signée par le candidat, personne physique ou, pour une personne morale, par la personne habilitée à l'engager juridiquement et financièrement. Document justificatif à l'appui. La transmission des offres devra être effectuée sous pli cacheté portant les mentions candidature à l'acquisition des bandes de la grotte de Pamoufrif et contenant l'ensemble des documents visés au 4.2. Ces plis seront transmis soit par voie postale en lettres recommandées à l'accusé de réception, soit remis directement contre récépissé à l'adresse suivante, ville de Lourdes, Direction générale des services. Enfin, c'est toujours pareil. Date limite de réception des offres. Dans le délai d'un mois, à compter de la notification par RAR de la ville des domaines, indiquant la valeur vénale du bien. Parallèlement, l'offre de vente est publiée sur un support public d'audience nationale permettant de garantir le caractère ouvert de la vente avec les mêmes conditions de délai de réponse. Les plis qui parviendraient sous enveloppe non cachetée ou après la date et l'heure fixée ci-dessus, sauf en cas de prorogation, ne seront pas retenus. Ils seront retournés non ouverts à leur destinataire. Toutefois, si aucune information sur l'enveloppe ne permet d'identifier l'expéditeur, alors la ville se réserve le droit d'ouvrir l'enveloppe afin de déterminer l'expéditeur. Cette ouverture ne vaut pas acceptation de l'offre par la ville. Délai de validité des offres formulées par le candidat. L'offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée jusqu'à la date de réception par le candidat d'une lettre de l'administration envoyée avec accusé de réception l'informant de la suite à donner, de la suite donnée à son offre. Commission compétente pour le choix du candidat, la commission des finances élargie sera compétente pour le choix du candidat. Choix du candidat. Le choix du candidat aura lieu lors de la commission des finances élargie, suivant la date limite de réception des offres et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date limite de réception des offres. Le choix résultant de cette commission sera affiché en mairie dans un délai de 48 heures et fera l'objet d'une notification auprès des candidats dans les meilleurs délais. Le choix de la ville de Lourdes s'orientera prioritairement vers la proposition financière la plus avantageuse, mais elle appréciera également la capacité des candidats à respecter leurs engagements. Les offres seront examinées selon les critères suivants. Le prix proposé, valeur pondérée 90%. La capacité du candidat à respecter ses engagements et à réaliser la transaction en respectant la destination contractuelle et ou l'activité du banque concernée, valeur pondérée 10%. La ville lourde se réserve le droit d'interrompre le processus de vente à tout moment et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. La ville de Lourdes n'aura pas à justifier sa décision, étant observé qu'elle est juridiquement autorisée avant le degré agréé. Mode de règlement du prix d'acquisition. Le prix d'acquisition sera payé en deux phases distinctes. 10% du prix sera en séquestration au moment de l'acquisition de la promesse de vente. Le solde pourra être payé comptant au moment de l'obtention d'un crédit dans les termes et conditions définies à l'article 4.2 des présents. Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix principal et ce conformément à l'article 1593 du Code civil, les frais d'acte et autres accessoires de la vente. Est annexé à ce règlement l'ensemble des bancs de la grotte, vous l'avez tous vu, avec les numéros des bancs, les adresses des bancs, la date d'effet du bail, la date d'expiration, la situation juridique actuelle, les loyers 2018,
le double,
c'est parce qu'il occupe deux bancs de la grotte consécutive déjà par dérogation de la ville municipale. Voilà. Tout cela est annexé. Dans ce tableau, vous avez exactement aussi, en plus, la valeur locative estimée par le domaine et la valeur vénale estimée par le domaine. Pour ceux pour qui ça a été réalisé. Voilà. Vous avez en annexe aussi les avis des domaines de tous les bancs de la grotte pour lesquels ça a été réalisé.